années une énorme mutation dans le système de recherche. C'est-à-dire que il y a eu une organisation de la recherche qui s'est mise au service des priorités économiques. Bon, ça existait, bien sûr, avant, ça a toujours existé. Hein. On dit même que Léonard de Vinci, il travaillait pour le privé, on dirait aujourd'hui. Il travaillait, il inventait des trucs à façon qui pourrait vendre. Oui, pourquoi pas, mais n'empêche qu'il inventait aussi des principes et que c'était un artisan. Aujourd'hui, c'est des structures de plus en plus puissantes, normalisées, étiquetées, inspectées, qui travaillent pour des priorités économiques et donc en liaison étroite avec l'industrie. Et tout le système de recherche est construit comme ça.
Voilà, donc sur les oreilles loin du front, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, on va donc passer au dossier de cette émission, Jérémy.
Eh oui, le dossier de cette émission, donc je l'ai dit en introduction tout à l'heure, cette semaine c'est la semaine de la fête de la science, donc il y a des choses qui se passent un peu partout dans Paris et ailleurs en France. Il y a pas mal de rendez-vous au Jardin du Luxembourg, dans les différentes cités de l'industrie, Palais de la Découverte, enfin bon, si vous voulez tripoter un peu la science, c'est le moment, mais on va surtout parler de tout ce qui concerne les gadgets en science, c'est-à-dire les OGM, la téléphonie mobile et essentiellement les nanotechnologies. Là, d'ailleurs, il y a pas mal de mobilisation autour des nanotechnologies, notamment à Grenoble, puisque c'est la vallée des nanotechnologies. Donc, on va rediffuser donc une conférence de Jacques Testard qui avait lieu à l'espace Marx au mois d'avril. Et donc je rappelle que Jacques Testard est biologiste, il est chercheur à l'INSERM et donc il était intervenu autour de la question technoscience et démocratie. Et donc Jacques Testard va faire un historique de son parcours. Comment est-ce qu'on passe-t-on de l'INRA, donc l'Institut National de la Recherche Agronomique, à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Autrement dit, comment est-ce qu'on passe-t-on de la recherche sur les plantes à la recherche sur l'homme?
Je suis arrivé à l'INRA, bon, là un peu par hasard, mais j'étais jeune, c'était en 64. Mais à l'INSERM, j'y suis arrivé en 77, après avoir passé donc 13 ans à l'INRA, à Jouy-en-Josas, à travailler sur la reproduction des animaux, en particulier des vaches, avec un sujet qu'on m'avait collé. Et c'était l'époque où on était artisan, c'est pas comme aujourd'hui Jean-Paul Renard qui a toute une usine. Enfin, c'était l'époque où on bricolait tout seul dans son coin sur des sujets très vastes. Et moi, mon sujet, c'était améliorer la race bovine, c'est-à-dire multiplier les meilleurs échantillons bovins, les femelles. Parce que les mâles, on sait le faire avec l'insémination artificielle, on peut multiplier un mâle, mais les femelles, elles pondent un ovule toutes les 3 semaines. Donc il fallait que je trouve une solution. Et j'ai inventé les mères porteuses chez les vaches. Alors j'ai fait ça avec des élastiques, avec trois fois rien. Ça a marché en 72. Et à ce moment-là, c'est toujours pareil, on prend du recul après. À ce moment-là, j'ai dit, mais c'est idiot, pourquoi on a fait ça? Parce qu'il y avait à ce moment-là les excédents laitiers déjà. C'est-à-dire que Bruxelles donnait des aides pour détruire le lait. On donnait le lait, on le vendait aux Soviétiques, je me rappelle, qui en faisaient du beurre pour le garder un peu, puis après ils en faisaient de la graisse de machine quand il y en avait trop. Ben, c'était un truc, circuit économique complètement aberrant. Mais il fallait améliorer. Donc j'ai été voir le directeur de l'INRA, je me suis mis en colère. Je lui ai dit, écoutez, on s'est foutu de moi, j'ai travaillé pendant 12 ans sur un truc idiot. Quel est le con qui a donné ce sujet? Je suis coupable de l'avoir fait, ça marche, et voilà où ça mène, c'est absurde. On n'a pas besoin d'augmenter la production laitière, il y en a trop. Il m'a dit, monsieur, vous n'avez rien compris à la science. Il ne s'agit pas d'augmenter la production laitière, il s'agit d'augmenter la productivité des vaches laitières. Bon, je suis parti, et je suis allé donc dans l'hôpital Béclair, où je me suis dit, bon, là, au moins, ce n'est pas la productivité, c'est pour la santé publique, c'est généreux, c'est bon. J'étais un des rares qui connaissait à ce moment-là pas mal d'animaux domestiques, mâles et femelles, la physiologie, le sperme, les ovules, des techniques. Enfin, je connaissais pas mal de choses. Donc j'ai intéressé les gynécologues de cet hôpital qui m'ont fait venir, en fait. Et là, je suis donc, j'ai intégré l'INSERM et je me suis mis à travailler sur le follicule ovarien humain. Enfin, c'était un truc comme ça. Et puis très vite, on m'a un peu poussé pour travailler sur la fécondation in vitro avant la naissance du premier bébé anglais. Et bon, en quelques années, on a fait aussi le premier bébé français, il n'y avait pas de raison. Et assez vite, quand j'ai vu comment ça tournait, comment finalement, les gynécos locaux en profitaient pour faire du fric, comment on négligeait un tas d'aspects humains, comment on était prêt à tricher avec l'éthique, sur laquelle on faisait bien sûr beaucoup de discours. Tout ça m'a agacé profondément et j'ai mis les pieds dans le plat très vite. Là, ça a été beaucoup plus vite qu'avec les vaches parce que j'étais déjà un peu vacciné. Donc j'ai mis les pieds dans le plat et je suis devenu l'emmerdeur, effectivement. Alors j'avais déjà avant des scientifiques sur le dos de la recherche animale, après je me suis payé des médecins. J'ai continué un peu dans le même sens. Bon, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais c'est juste pour dire que c'est pas vraiment par hasard quoi, que je suis arrivé à ce truc-là. C'était à la fois parce que j'avais eu des compétences et qu'on m'a appelé, mais c'était aussi pour fuir quelque chose qui m'horrifiait.
Donc après cette mise en situation, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc technoscience et démocratie, qu'est-ce que c'est que la technoscience? Quelle est sa place dans la société et comment le chercheur est impliqué dans ce vaste micmac socio-politico-technoscientifique?
Alors technoscience, c'est un mot que certains refusent encore d'employer. On parle beaucoup de science. Moi, j'emploie plus jamais le mot science, hein. On peut l'employer historiquement pour parler d'un tas de choses, je ne sais pas moi, des expériences de Pascal, des trucs de Lavoisier, éventuellement de Pasteur, quoique c'est déjà un peu dans la technoscience. Mais pourquoi on change de mot et pourquoi ce mot? Alors le mot, il semble qu'il ait été inventé, certains prétendent par Castoriadis, mais je crois plus probablement par Gilbert Autois, qui est un philosophe des sciences belges. Il a été inventé il y a une trentaine d'années. Alors pourquoi on a eu besoin d'inventer ce mot? Parce qu'il y a eu, il y a une trentaine d'années, une énorme mutation dans le système de recherche. C'est-à-dire que il y a eu une organisation de la recherche qui s'est mise au service des priorités économiques. Bon, ça existait, bien sûr, avant, ça a toujours existé, hein. On dit même que Léonard de Vinci, il travaillait pour le privé, on dirait aujourd'hui. Il travaillait, il inventait des trucs à façon qu'il pourrait vendre. Oui, pourquoi pas, mais n'empêche qu'il inventait aussi des principes et que c'était un artisan. Aujourd'hui, c'est des structures de plus en plus puissantes, normalisées, étiquetées, inspectées, qui travaillent pour des priorités économiques et donc en liaison étroite avec l'industrie. Et tout le système de recherche est construit comme ça. Donc il y a une confusion permanente entre les deux fonctions de la recherche dont on parle toujours dans les médias, la recherche fondamentale d'un côté, la recherche appliquée de l'autre. Donc la fondamentale, c'est augmenter la connaissance. Et puis la recherche qu'on appelle finalisée ou appliquée, c'est trouver des moyens d'action sur le monde. Ce qui n'est pas honteux, hein. Moi je ne suis pas du tout opposé à la recherche finalisée. Mais je voudrais qu'elle dise son nom. Moi, j'ai fait que de la recherche finalisée toute ma vie. Ça m'a obligé quelquefois à gratter un peu pour mieux comprendre. On pourrait dire avec prétention que c'était de la recherche fondamentale, mais je ne me fais pas d'illusions sur cet aspect-là. Et donc, ça n'est pas péjoratif pour moi de dire recherche finalisée ou recherche appliquée. Mais ce qui est grave, et c'est de ça que je vais vous parler, c'est que la recherche qui a complètement changé, qui est devenue un outil pour la technoscience, se camoufle encore derrière cet idéal de recherche fondamentale. Et on l'a vu encore dans le mouvement des chercheurs l'année dernière, d'ailleurs, où on défend de la recherche fondamentale. Bon, c'est pas vrai. Personne ne fait de recherche fondamentale. Du moins, pas complètement. C'est pas le but d'un laboratoire de faire de la recherche fondamentale. Sinon, il n'aurait pas de moyens. Il n'aurait pas de locaux, pas de personnel, pas de fric de fonctionnement. Pour avoir tout ça, il faut dire ce qu'on cherche et à quoi ça sert. Et il y a des commissions qui vont, dans lesquelles il y a des industriels aussi, d'ailleurs, qui viennent, qui inspectent le projet et puis qui disent OK ou non. Donc il faut que le projet soit inscrit dans un processus économique. Mais c'est tout à fait justifié. Et il y a pas mal de choses justifiées. Simplement, ça camoufle derrière la recherche fondamentale, ça évite le regard du vulgaire, c'est-à-dire de vous, de tout le monde, de la populace qui connaît rien à la science, qui n'est pas éduquée, qui ne pourrait pas comprendre. Et ça l'évite d'autant plus que, puisque la recherche, elle est pour le progrès des connaissances, qui est contre le progrès des connaissances? Si on est pour la connaissance, il faut donner des sous à la recherche parce que c'est la recherche de connaissances. Alors c'est pas évident, moi je suis pas du tout partisan de donner que finalement les citoyens paient des impôts pour donner des sous à des gens qui s'amuseraient à la connaissance comme ça, sans qu'on en ait décidé collectivement, sans qu'on ait vu si éventuellement ça va pas poser des nouveaux problèmes. Autrement dit, c'est pour ça, j'introduis l'idée d'après, c'est la démocratie. Alors, quand la science devient technoscience, elle a plusieurs caractéristiques nouvelles par rapport à la science d'avant, et ça explique, ces caractéristiques expliquent le déficit démocratique grandissant de la recherche publique. Je parle de la recherche publique, hein, parce que la recherche privée, on ne lui demande pas de trouver des connaissances, mais il est très clair qu'elle est finalisée. C'est sa fonction. Quelles caractéristiques? Bah, par exemple, la domination économique sur la recherche, je l'ai évoqué tout à l'heure. Les applications doivent être rentables à court terme. C'est déjà assez limitatif. Il y a un bluff technologique très net. Et dans les domaines d'actualité, par exemple les OGM, les thérapies géniques, le bluff est évident. On en arrive à faire croire, et je suis sûr que vous croyez, par exemple, que la thérapie génique, ça marche. C'est pas vrai, ça marche absolument pas. Que les OGM, ça sert à quelque chose. Pour le moment, ça ne sert absolument à rien qu'à enrichir les marchands de graines brevetées. Mais on arrive à le faire passer. Or, des chercheurs contribuent à cette image-là. Donc ce bluff technologique, il nous mène à quoi? Il nous mène à la création des start-up. Parce que s'il n'y a pas le bluff technologique, personne ne va mettre des sous dans un truc dont on ne sait rien. Donc il faut d'abord faire croire que c'est l'avenir. Il y a un effort de compétitivité. Ce mot compétitivité, pour moi, c'est le pire de la langue française. Et on l'entend de plus en plus. Compétitivité entre les chercheurs, entre les institutions, entre les États ou entre les entreprises. Et tout ça, ça nuit en réalité à l'effort de connaissance. Parce que cette compétitivité, elle porte sur l'objet économique. Elle ne porte pas sur la connaissance. La connaissance ne se mesure pas. La compétitivité, elle se mesure en dollars ou en euros. Donc, ce n'est pas le cas d'une connaissance. Et ça nuit donc à l'effort de connaissance. C'est, on peut dire aujourd'hui que la proportion des innovations, ou le nombre d'innovations par an, par exemple, augmente. Très nettement, ça s'accélère. Mais en réalité, le nombre de découvertes, il diminue. Le nombre de découvertes, si on veut réserver ce mot à des explications, à une intelligence du monde qui nous entoure, ou de notre propre corps, par exemple, eh bien, le nombre de découvertes, il est de plus en plus faible, parce que les chercheurs qui sont de plus en plus nombreux sont occupés à des innovations. La découverte est un accident de la recherche finalisée. Il y a encore de temps en temps des découvertes, mais c'est des accidents dans un processus de recherche avec un but précis qui est celui pour lequel on a obtenu les moyens de travailler. Donc ce recul de la recherche fondamentale, tout le monde convient qu'il est dommageable. Tout le monde le dit, pas seulement les chercheurs. Il est dommageable pour l'esprit, pour la civilisation, mais il est aussi dommageable pour le développement de la recherche elle-même, puisque actuellement on vit sur des acquis théoriques fondamentaux d'avant, mais comme on en produit de moins en moins et que les besoins d'innovation sont de plus en plus importants pour alimenter les marchés, il arrive un moment où la machine va s'arrêter, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des éléments théoriques suffisants pour créer de nouvelles innovations, il me semble. Et il y a autre chose encore, c'est que tout ça est possible à cause de l'idéologie du progrès, qui n'est pas nouvelle, mais qui continue, qui perdure, toujours pareil. Avec une confusion entre le progrès technique et le progrès humain, le quantitatif et le qualitatif. Quand je dis une confusion, progrès technique, progrès humain, c'est, vous en conviendrez, il ne suffit pas qu'une chose soit nouvelle pour qu'elle soit un plus pour la qualité de vie. Or, on a tendance à dire, on a écrit tant d'articles scientifiques, on a pris tant de brevets, on a mis tant d'objets sur le marché, donc il y a progrès de la science. Non, il y a accumulation de la technoscience, ce qui n'est pas du tout pareil, surtout pour les gens. Et cette idéologie du progrès, elle sévit dans la société en général. Il y a une soumission de la plupart des gens au discours des scientifiques, et les médias, on peut dire, donnent un sérieux coup de main aux chercheurs pour en arriver là. Elle existe très fortement chez les décideurs politiques, chez nos élus, chez les députés par exemple, ou les sénateurs, qui sont tout à fait soumis à une idéologie scientiste, qui ont recours aux experts pour essayer de régler un problème, alors que tout le monde sait bien que tous les experts sont dans des situations de conflit d'intérêts, et que la seule façon de faire une vraie expertise, c'est de l'associer toujours à une contre-expertise, ce qui ne se fait pas. Donc la science devient une religion, on l'a évoqué tout à l'heure. Et c'est amusant parce que les chercheurs souvent justifient leur action sans contrôle par ce qu'ils appellent la liberté du chercheur. La liberté de la recherche, la liberté du chercheur. C'est absurde. Jamais le chercheur n'a été autant encarté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est même embauché déjà avec un projet. Il est embauché avec une orientation. Il est embauché toujours, d'ailleurs, dans les mêmes disciplines. Pour ce qui concerne la biologie, c'est essentiellement la génétique et ses diverses applications. Bon, il n'y a pas de chercheurs embauchés en toxicologie de l'environnement, par exemple, qui est un problème dont on parle partout. On parle du cancer, on parle de l'amiante, il n'y a rien, il n'y a pas de recherche. Il n'y a rien du tout, parce qu'il n'y a rien à vendre, tout simplement. Aujourd'hui, le chercheur, c'est un super technicien. Il travaille en équipe. Et, par exemple, quand je vois des fois les médias qui aiment bien dire « Ah, mais si un chercheur fou s'emparait de cette technique », non, ça, c'est pas possible. Un chercheur fou, il est immédiatement arrêté par le système, par ses collègues, parce qu'il va nuire à tout le monde. Donc il n'y a plus tellement de possibilités. Alors il vaut mieux qu'il n'y ait pas de chercheurs fous, mais ça veut dire qu'on ne peut plus aujourd'hui. On ne peut pas gamberger dans la recherche. On ne peut pas. Donc le chercheur est de moins en moins libre et il doit produire des rapports sans arrêt. Il doit chercher des sous, il doit... Bon, il passe son temps, hein. Un cadre de recherche passe la moitié de son temps à chercher des moyens pour continuer de travailler et nourrir son équipe, et le reste du temps, il le passe à rédiger des rapports. On ne peut pas dire que le chercheur soit libre. Mais je répète, les chercheurs essaient de la faire vivre, cette image, parce que c'est elle qui leur donne une autonomie. Ça veut dire que, c'est important, ça, j'essaie d'expliquer ça à mes collègues, ils n'auraient rien à perdre à la démocratisation du système de recherche. Parce qu'ils n'ont pas l'air de se rendre compte, mais ils sont un peu les esclaves d'un système. Et ils pourraient gagner beaucoup plus de liberté, d'autonomie, de rapport avec les citoyens dans un système qui serait différent et dont je vais vous parler après. Juste voir quand même que les conséquences de ce progrès effréné, c'est tous les emmerdements qu'on récupère actuellement, toutes les catastrophes, la vache folle, le sang contaminé, l'amiante... bientôt peut-être la téléphonie portable, plus tard les OGM. Bon, les trucs vont à toute vitesse, il n'y a pas de contrôle. Donc la question urgente, c'est comment mettre la technoscience en démocratie. Je crois que tout le monde convient que c'est une vraie question qu'il faut poser. Alors classiquement, l'institution de recherche répond, et pas seulement elle, les philosophes aussi. Je pourrais dire un mot des philosophes, ce que j'ai remarqué avec les philosophes. J'ai bien connu Michel Serres, c'était même un ami, il avait préfacé mon premier bouquin. J'en ai connu quelques autres. Je m'aperçois qu'un philosophe, des sciences en particulier, s'il veut garder son statut et pas être taxé d'obscurantisme, il faut qu'il se mette du côté de la technoscience. Sinon, il est grillé. Il devient un type passéiste, rétrograde. Alors, même un gars comme moi, on arrive à me traiter d'obscurantiste, alors que j'ai quand même une certaine culture scientifique et donné des gages au système. Alors, un philosophe, qu'est-ce que vous voulez, s'il n'est pas carrément du côté du manche, alors là, vous voyez les Dominique Lecourt, les Ferry, les Tchégoïen, tout cela, ils ont compris. Donc, ce qu'on raconte un peu partout, le contrôle de la recherche est impossible et il n'est pas souhaitable. Voilà, on entend ça partout. Pourquoi ? Parce que les découvertes sont toujours imprévisibles. Ce qui est évidemment le contraire de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les découvertes sont imprévisibles. On ne peut trouver que ce qu'on cherche. Donc, il peut arriver qu'on trouve un truc qu'on n'avait pas prévu de trouver, mais c'est parce qu'on travaillait dans une certaine direction qu'on l'a trouvé. Il y a déjà toutes les directions de recherche. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on ne fasse pas de découverte alors qu'on cherchait. Mais la découverte, elle est, je disais, un accident de la recherche finalisée.
Pour faire leur cours, ils parlaient d'amour. Pour mieux prouver leur ardeur, ils s'offraient leur cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Ils vous disent mon change et vous disent à l'oreille.
Ah Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopillon, une cuisinière avec un four en verre, des jolis couverts et des vélos gâteaux.
Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour manger les odeurs.
Des draps qui chauffent, un pistolet à l'eau, un avion pour deux.
La tourniquette, à faire la vinaigrette, le
le ratatine en cuir et le coupe friture. Ici la belle se montre encore cruelle, il la flanque dehors et il confie son sort au frigidaire, à l'épaisse poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait.
Au chauffer sa pâte au canon à patata, les ventres tomates, à l'école se poulet.
Mais très très vite, il reçoit la visite d'une douce petite qui lui offre son cœur. Alors il flanche, et c'est votre rebouche, car elle cassera jusqu'à son dernier plat.
Car elle cassera jusqu'à son dernier plat.
Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez Les Oreilles Loin du Front jusqu'à 20h30. Ce soir, on est à Jussieu, dans la cave. Et on est à Jussieu parce que Jussieu, c'est un pôle scientifique. Et ben, on parle de science. Et on va parler de science, donc avec Jacques Testard. On va poursuivre la retransmission du débat qui avait lieu à l'Espace Marx au mois d'avril. Donc, après avoir défini ce qu'était la technoscience, Jacques Testard va brasser en quelque sorte ce qui se fait en termes d'initiation, de début de micro-contrôle de la recherche scientifique par la société.
J'ai quand même noté une phrase de Philippe Kourinski, qui est un grand patron de la recherche, qui était le directeur de l'Institut Pasteur, et qui a écrit un bouquin intéressant, quoique scientiste, il a écrit ça avec une juriste, sur le principe de précaution. Et voilà ce que dit Kourinski. Il serait tout à fait possible que les chercheurs procèdent, avant le démarrage de tous les projets de recherche importants, à des études d'impact et au chiffrage des mesures environnementales pour que les décideurs et l'opinion publique aient des moyens d'arbitrage. Je ne sais pas si vous avez noté, mais avant le démarrage de tous les projets, c'est avant. Alors donc, ça veut dire qu'avant le démarrage d'un projet, on pourrait déjà s'interroger. Alors que partout, on nous dit que ce n'est pas possible. Il faut attendre d'avoir fini parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. De tous les projets, ça n'exclut rien du tout. Et de donner donc des éléments pour que l'opinion publique ait des moyens d'arbitrage. Oh, on commence à toucher la démocratie. Simplement, il ajoute, mais ça c'est réservé aux chercheurs. C'est-à-dire que tout ce travail-là doit être fait par les chercheurs eux-mêmes. Il n'est pas question que des gugus qui ne sont pas des scientifiques viennent mettre leur nez dans l'appareil de recherche. Alors, bon, ça ne va pas plus loin. Alors actuellement, comment ça se passe le contrôle de la recherche ? En amont, c'est-à-dire au niveau des laboratoires, au niveau de la production de ce qu'on appelle le savoir, et que moi j'appelle la technologie, il n'y a aucun contrôle. Il y a eu des essais récemment dans les grandes institutions. À l'INRA, il y a quelque chose d'un peu plus original qu'ailleurs, puisqu'on essaye de faire des procédures où on introduit des citoyens, mais c'est des manipulations. J'en ai étudié une sur la vigne transgénique en particulier. C'est des trucs où on saupoudre avec une ménagère, avec un épicier et tout ça, mais on ne tient absolument pas compte de leur avis, et on les met en situation d'infériorité, si bien qu'ils ne peuvent pas à la fois se cultiver et exprimer un point de vue. Au CNRS, ils sont allés plus loin, carrément, ils ont mis quelques personnes de la société civile dans l'état-major qui élabore les choix scientifiques. Ça fait très bien, donc la société est représentée. C'est le grand truc aujourd'hui, hein, faire représenter la société dans des structures. Imaginez, il y a 30 chercheurs dans un machin, puis il y a un ou deux gugus qui sont là. On parle un langage auquel ils ne comprennent rien. Et ensuite, on dit que la société est donc partie prenante dans les choix scientifiques. Bon, en fait, c'est très dangereux. Moi, je déconseille à tout le monde d'aller dans ces machins-là, parce qu'on sert de caution, complètement. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, en amont, il n'y a donc rien de concret. En aval, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, quand il n'y a pas de problème, on n'appelle pas la société. C'est seulement quand des associations qui se créent, par exemple sur la téléphonie mobile, sur les OGM, enfin, il y a pas mal de thèmes, sur le nucléaire. Alors, à ce moment-là, les politiques font appel à des experts. Mais un bon expert, c'est quelqu'un qui est très spécialisé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui comprend rien en dehors de sa spécialité. Et donc, est incapable de porter un jugement tenant compte de la complexité où nous sommes tous les jours. Et en plus, c'est quelqu'un qui est intégré aux intérêts de la technoscience. Autrement, on ne voit pas comment il aurait pu acquérir son expertise. Et quelque chose quand même d'amusant, quand les expertises sont contradictoires, regardez le cas des OGM, par exemple, on fait appel à ce moment-là à quelque chose d'extraordinaire, on dit c'est au consommateur de choisir. Parce que c'est finalement comme ça qu'a été résolu le problème des OGM et de leur mise sur le marché. Vous savez qu'on peut aujourd'hui consommer certains OGM. Bon, aux États-Unis, ça fait longtemps. Mais chez nous, comme il y a une résistance, eh ben, on a trouvé la solution. C'est au consommateur de choisir. Et comment on va faire pour qu'il choisisse? On va écrire sur la boîte « Ce produit contient des OGM ». Alors ça, je trouve que c'est le vrai scandale de la démocratie aujourd'hui. Parce que finalement, c'est un déplacement complet de la démocratie à partir de la lâcheté des politiques à qui il appartient de prendre les décisions. On les a élus pour ça, qui se démerdent à prendre une décision, à s'engager, à prendre leurs responsabilités. C'est aux consommateurs. Alors ça fait, en plus, ça fait vraiment très démocratique, puisque c'est le petit peuple qui va prendre les décisions. Mais c'est une négation complète de la complexité des problèmes. C'est ramener, par exemple, le risque des OGM, les problèmes posés par les OGM, au seul risque sanitaire, par l'alimentation, qui existe effectivement, mais qui n'est pas le seul. Quand on fait ça, quand on ramène la décision, soi-disant au choix du citoyen devant la boîte de conserve, on a éliminé l'essentiel des problèmes, les problèmes économiques, les problèmes d'environnement, qui sont liés aux OGM. Et on n'a plus que les problèmes sanitaires. Mais ces problèmes sanitaires eux-mêmes, je ne vois pas comment la personne qui va acheter son maïs transgénique ou pas transgénique, je ne vois pas comment, par quel miracle cette personne-là pourrait faire un choix éclairé, étant donné que les experts ne sont pas d'accord entre eux. Donc vous voyez que c'est vraiment partout un abus. C'est un abus des gens, c'est un abus de la démocratie, c'est un véritable scandale. J'ajouterais, c'est un effet complètement pervers, c'est de la perversité. C'est transformer un échec de la science à savoir, puisque la science ne sait pas si les OGM sont dangereux ou pas. Il faut le dire quand même, elle ne sait pas. Eh bien, c'est transformer cet échec de la science en une mystique du savoir. Le consommateur peut savoir. Il peut savoir qu'on ne sait pas, c'est tout ce qu'il peut savoir. Mais ça, on ne lui dit pas. Alors, les nouveaux enjeux dans cette technoscience, c'est la mondialisation de l'économie et de la recherche, avec la mondialisation des conséquences, qui le plus souvent sont irréversibles. Autrement dit, je ne vois pas même comment on peut réguler les problèmes de technoscience au niveau local, régional ou même national. Les problèmes aujourd'hui sont mondiaux et ils doivent se régler un peu comme les problèmes économiques. Donc il y a une mondialisation des risques.
Il suffit pas de critiquer, ça. Déjà que Testin est super fort pour critiquer, hein, mais devant ce constat accablant, bien sûr, faut mettre en place des moyens d'action. Donc là, on va parler des conférences de citoyens. Les conférences sont un moyen d'action. Alors on va se gargariser un petit peu avec le mot citoyen, mais bon, il faut savoir comment ça fonctionne, ces conférences de citoyens.
Alors quelles propositions on peut faire à partir de ce tableau un peu noir, j'en conviens? Qu'est-ce qu'on peut faire en amont, c'est-à-dire au niveau des labos? C'est là que c'est le plus dur, mais c'est peut-être là que c'est le plus important. Avant que la technologie soit sur le marché ou même qu'elle soit mise au point, qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'autant quand ce qu'on appelle la recherche se passe dans l'espace social. C'est encore un cas particulier des OGM, ça. Je parle des plantes qui sont dans les champs. Mais on parle de recherche, on parle d'essais de recherche sur des plantes transgéniques qui sont dans des champs. Mais c'est affolant. C'est comme si on bricolait des animaux, qu'on fasse des expériences carrément dans la nature. On n'a pas le droit de faire ça. C'est la première fois que le laboratoire se place dans l'espace public. Rien que ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc comment on peut faire, puisque là on est déjà en amont? Eh bien, il devrait y avoir des concertations sur les priorités de la recherche, par exemple. C'est-à-dire que la société doit être impliquée dans les choix. Je donnerai un exemple. Pourquoi mettre des moyens dans l'étude des maladies orphelines, vous savez, celles qui touchent moins de 1000 enfants en tout, toutes ces maladies ensemble par an? Et bon, c'est triste, hein, parce que c'est souvent des choses graves et bon, c'est dramatique, mais le paludisme qui tue entre 1,5 et 2 millions de personnes par an, c'est triste aussi et c'est quand même un problème d'envergure. Et si on parle de mondialisation de la science, il faut envisager qu'un Africain qui meurt du paludisme, c'est aussi grave qu'un enfant trisomique ou un enfant atteint d'une maladie rare génétique. C'est une personne qui souffre. Donc là-dessus, il pourrait y avoir des choix de société. De même, les OGM, je parle souvent des OGM parce que c'est le paradigme de la technoscience. Les OGM, est-ce qu'on fait le choix des OGM, c'est-à-dire de l'industrialisation de l'agriculture, forcément, puisque tout marche avec, ou bien le choix d'une agriculture durable? C'est un choix qui appartient à tous les citoyens, et on ne leur demande pas de le faire. On leur met une étiquette sur la boîte qui contient des OGM. Il faut savoir que les budgets de recherche, ça vous l'imaginez bien, sont limités. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas chercher partout. Parce qu'on laisse entendre que la science avance et qu'on cherche. Mais on cherche, tout le monde cherche, je vous ai dit tout à l'heure, dans tous les pays, on cherche des choses rentables à court terme. Et on ne peut pas chercher partout. Donc il y a bien quelqu'un qui a fait des choix, on va chercher ça plutôt que ça. Ce quelqu'un, vous ne l'avez jamais rencontré, moi non plus d'ailleurs. Ça se passe plus haut. C'est les mêmes genres de connards que ceux qui m'ont fait travailler pour faire des vaches porteuses et pour augmenter la production laitière. Bon, c'était un choix. Mais j'étais innocent, mais aujourd'hui, on ne me le referait pas. Mais bon, il faut que ça serve, quoi. Les budgets sont donc toujours orientés. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, de budgets fléchés, d'orientations fléchées. Il y a maintenant une agence de la recherche qui vient d'être créée et qui a mis des priorités, c'est-à-dire qui flèche des orientations. Mais c'est décidé par vous, tout ça ? C'est décidé par qui ? Alors, c'est les mêmes orientations en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, en France. Hein, c'est les mêmes trucs, parce qu'on est en concurrence. Parce qu'on est dans la technoscience et pas dans la science. C'est toujours pareil. Et les gens ne peuvent rien dire là-dessus. Donc il faudrait qu'il y ait, d'une façon quelconque, un avis possible de la société sur les orientations de la recherche, sur les programmes prioritaires. Tout ça paraît complètement utopique aujourd'hui, hein, parce que c'est une vraie révolution de la façon de penser la science, bien évidemment. Quand j'étais président de la Commission française du développement durable, on avait rendu un avis sur le principe de précaution, je m'en souviens. C'était notre premier avis, et on avait proposé la création d'un comité consultatif pour l'évaluation des technologies. Ce comité ferait appel à des expertises extérieures variées, changées chaque fois en fonction du thème, mais pas seulement des scientifiques. Ce qu'on appelait les experts, nous, ça pouvait être des sociologues, des philosophes, des épiciers, toutes sortes de gens, les gens qui vivent, et les gens qui vont subir ou profiter des résultats de la recherche. Donc, on peut les transformer en experts facilement, je vais y revenir. Et donc, on disait que si l'incertitude, à l'issue de ces confrontations d'experts contre experts, mais vue d'une façon très large, et pas seulement des scientifiques, je le répète, si l'incertitude persiste, alors on pourrait faire appel à des conférences de citoyens. Ça part de l'idée que il faut que la société s'exprime, mais en même temps, faut pas se faire d'illusions, la plupart des gens s'en foutent. La plupart des gens s'en foutent et la plupart des gens ne sont pas préparés, se donnent pas les moyens de se forger une opinion éclairée, comme on dit. Donc il faut choisir, faut pas choisir, il faut demander des volontaires. Des volontaires pour travailler sur un sujet. Mais ces volontaires, il faut faire attention que ce ne soient pas déjà des gens engagés, par exemple dans le monde associatif. Alors là, je me bagarre avec les associations parce qu'on me dit, mais comment, si on prend des cons qui ne connaissent rien pour faire une conférence de citoyens, alors que nous, on connaît le problème et qu'on est des citoyens, ça ne tient pas debout. Mais non, le principe de la conférence de citoyens, c'est de prendre des gens innocents, des gens naïfs. Ils ne savent rien sur le sujet, mais des gens qui sont d'accord pour bosser pendant plusieurs week-ends. Parce que le système, c'est d'abord une formation. Vous allez me dire, mais ça dépend de ce qu'on leur raconte, on peut arriver à les amener à n'importe quoi. Ben oui, mais l'astuce, c'est que la formation, elle est faite à partir d'un comité de pilotage qui comprend des gens d'opinions différentes sur le sujet. En général, on pourrait les appeler des experts ou des universitaires, mais ce n'est pas eux qui vont faire la formation. Ils vont se mettre d'accord sur un programme, pourrait dire objectif, qu'ils vont avaliser par consensus, alors qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est ça qui donne une valeur à ce programme, une espèce de neutralité, c'est que des gens pour ou contre telle ou telle solution qu'on peut envisager au problème posé, vont dire bah, il faut que pendant une heure et demie, on explique aux citoyens tel sujet et ils se mettent d'accord aussi pour identifier un intervenant qui ne peut pas être eux. Vous voyez le truc ? Donc c'est vraiment un vrai boulot. Hein. Tout ça, 6 mois de préparation hein, pour faire un machin pareil. Alors ensuite, les formateurs identifiés n'ont aucun contact avec les citoyens, sauf ils viennent dans la salle de classe comme ça, ils ont les 15 gus en face et ils leur expliquent un point de vue, un autre va venir expliquer un autre point de vue ou un autre aspect du problème. Et il y a un programme qui se déroule sur 3 week-ends. Et puis, ces gens, comme c'est des week-ends, ils dorment ensemble. Pardon, excusez-moi. Quoique, il y en a qu'on fait un petit dans notre conférence de citoyens. Mais ils dorment dans le même hôtel. Ils sont mis dans des conditions de luxe. Nous, on les avait mis à Royaumont. Parce qu'il faut que les citoyens, qui sont assez dévoués pour faire ce travail gracieusement, il faut qu'ils sentent que la République les honore. On ne va pas les mettre dans un truc dégueulasse, j'allais dire ici. Non, il y a pire. On les avait mis à Royaumont, c'est-à-dire le luxe. Un endroit très beau, bien bouffé, tout ça. Et à la fin, une fois qu'ils ont reçu cet enseignement et qu'ils ont discuté entre eux, et tous ces week-ends sont espacés pour qu'après, ils retournent cultiver leurs champs, enseigner leurs élèves. Bon, ils ont des métiers. Et ils peuvent se téléphoner, ils peuvent continuer de lire par eux-mêmes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle vraiment la conférence de citoyens. C'est-à-dire que là, ça devient public. Jusque-là, personne n'a eu de contact avec eux, ni le comité de pilotage, ni les enseignants. Les enseignants les ont vus, c'est tout. À la fin, dernier week-end, il est public. Et là, c'est les citoyens, les 15 citoyens, qui convoquent un panel d'experts qu'on ne leur avait pas proposé. Ça peut être des politiques, ils avaient demandé l'ambassadeur des États-Unis, par exemple, ils demandent des gens comme ça pour le changement climatique. Des gens qu'on ne leur avait pas proposés, et ils demandent que ces gens-là viennent pour pouvoir les cuisiner. Ils demandent aussi des scientifiques, toutes sortes de gens. Bon. Et là, c'est assez extraordinaire. J'ai jamais vu des experts aussi mal à l'aise que dans ces situations. Ils ont affaire à des gens super formés et agressifs, et drôles en plus, plein d'ironie, et qui leur dit « Mais vous avez raconté ça, vous dites des conneries, c'est pas vrai, nous on a étudié le problème, machin avait dit que... » C'est extraordinaire, faut voir comment ces gens arrivent à un niveau d'expertise, mais en même temps de neutralité par rapport au sujet, parce qu'ils n'ont rien à défendre de particulier dans l'affaire. Et ils discutent entre eux. Donc c'est absolument fascinant ce machin-là. Puis après ils se réunissent. Ils se réunissent tout seuls et ils rédigent un rapport. Ça se passe en général le dimanche après-midi, ils commencent et ça finit dans la nuit. Ils nous avaient fini à 4h du mat. Ils rédigent un rapport tout seuls. À 10h du matin, ils font une conférence de presse à laquelle les journalistes ne viennent pas, puisque c'est une conférence de presse et qu'il n'y a donc pas de scoop. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, et ils ont donc un rapport qu'on peut mettre sur Internet, qu'on peut remettre à des politiques qui le mettent dans un tiroir. Alors voilà, cette procédure est extraordinaire. Le problème, c'est son issue. Souvent, on dit « Ouais, mais tes conférences de science, ça ne sert à rien. » Il y en a eu deux en France, une sur les OGM et une sur les changements climatiques. Ça ne sert à rien, effectivement, jusque-là, parce que c'est plein de bonnes choses, mais les politiques ne veulent absolument pas s'en servir. Autrement dit, moi, ce que je propose, c'est que les conférences de citoyens soient organisées par les politiques eux-mêmes. Il faut que ce soit le Parlement qui prenne en charge et que le Parlement s'engage, non pas à suivre aveuglément ce que vont dire les citoyens, sinon il y aurait un risque de dérapage démocratique aussi. Pour imaginer une manœuvre qu'on n'a pas prévue et que les 15 gus vont partir dans un sens parce qu'ils ont eu un formateur brillant qui les a persuadés de quelque chose, il y a un petit risque. Donc, mais que les élus de la nation s'engagent à discuter dans la transparence, donc débat parlementaire, sur les conclusions des citoyens. Et à dire, ça on prend, c'est bien, ça on prend pas pour telle et telle raison. Et deviennent responsables devant l'avenir sur la décision qu'ils vont prendre, plutôt que de dire « Ah ben, l'expert, il nous avait dit que c'était pas dangereux. » Là, c'est pas du tout pareil. On joue pas, là. Là, ça peut être très sérieux. Et ce que je propose aussi, c'est que, quand il y a un sujet assez important, il faut faire plusieurs conférences de citoyens simultanément. Et ce serait très drôle de vérifier que les conclusions sont les mêmes. J'en suis persuadé. Et je suis même persuadé qu'elles seraient les mêmes d'un pays à l'autre. À vrai dire, quand j'ai quitté la commission de développement durable, c'est parce qu'on m'a refusé les moyens de faire une expérience que je crois assez extraordinaire, qui était de faire une conférence de citoyens dans un pays du Nord, dans un pays de l'Est, dans un pays du Sud, en même temps. Avec une autonomie des conférences, mais un comité de pilotage commun pour gérer le truc. Et puis, localement, les gens se démerdent à organiser leurs conférenciers, leurs machins, à écrire leurs conclusions. Donc on avait déjà, ça devait être la France, le Mali et la Pologne. On avait déjà des points de chute et on voulait faire ce truc-là. Et le même jour, il y aurait une conférence de presse par des représentants des trois groupes de citoyens. Ça aurait pu être assez extraordinaire de voir ce qu'il y avait de commun, ce qu'il y avait de différent. Et je suis sûr qu'il y aurait eu beaucoup moins de différence qu'entre les politiques d'État. Parce que les citoyens du monde ont tous les mêmes intérêts, ils le comprennent très vite. Il faut comprendre que dans ces conférences, les gens deviennent intelligents. Ils ne deviennent pas seulement instruits, ils deviennent intelligents. On avait des bœufs, on avait deux électeurs du Front National, hélas, c'est le quota sur 15. Deux électeurs du Front National, à propos des changements climatiques et qu'est-ce qu'il faut faire, ils ont été d'accord avec les autres pour dire il faut aller aux énergies renouvelables, il faut augmenter énormément le prix de l'essence automobile. C'est évident, l'essence devrait être à 10 euros. Et la différence, elle ne doit pas passer dans la poche de je ne sais qui. Elle doit servir aux énergies renouvelables et à certains développements dans les pays que je continue d'appeler sous-développés, mais qu'on appelle en développement. Les électeurs de Le Pen étaient d'accord avec ça. Même ceux-là sont devenus intelligents. Et intelligents et généreux. Non, c'est tout à fait étonnant. Vous transformez des gens. Et ils s'en rendent compte, d'ailleurs. Ils sont émus à la fin. Ils se disent, mais je ne suis plus le même qu'avant. Je ne pourrais plus vivre comme avant. C'est assez extraordinaire, hein. Or, il y a assez quand même de gens pour faire chaque fois des conférences avec des gens différents. En trouver 15, c'est quand même possible. Hein. Donc, vous voyez, le système, aujourd'hui, on n'a pas fait mieux en démocratie. Je sais que Churchill avait dit que c'est le plus mauvais des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Moi, je crois que c'est le meilleur des systèmes, la démocratie, à condition qu'on ait les meilleures procédures pour gérer la démocratie, ce qui n'est pas le cas. Il est très clair que le Parlement, ce n'est pas suffisant. Le Parlement, il y a des dérives. Le référendum n'est pas démocratique. Une victoire de la démocratie, ce serait de faire des conférences de citoyens Alors, quand on dit ça, bien sûr, on dit, mais quand même, les élus, notre système parlementaire, c'est quand même... Mais on commence à en revenir, vous le voyez bien. Je pense que vous êtes tous partisans du non. Et vous voyez bien que le Parlement, il est partisan du oui. Donc, le Parlement n'est pas une représentation démocratique de la société. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut quand même mettre les pieds dans le plat. Moi, je ne suis pas pour supprimer le Parlement. Mais de faire comme je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que le Parlement soit obligé de s'emparer d'un avis démocratique de la société, tel qu'exprimé par des conférences de citoyens, pour en faire une analyse et prendre des décisions. Ce n'est pas les citoyens qui vont prendre la décision. Ces structures conférences citoyennes, elles peuvent intervenir en amont ou en aval de la recherche. Parce que si j'en parle là, c'est aussi pour la technoscience, hein. Pas seulement pour les problèmes de politique. Moi, je les mettrais partout, hein, ces structures-là, parce que ça me paraît être le fin du fin. Aujourd'hui, peut-être qu'on trouvera mieux. Peut-être que les procédures peuvent être encore améliorées, mais c'est la voie. Je crois que c'est la voie de considérer que des gens, c'est seulement des gens que peut venir la démocratie, mais que les gens, à l'état brut, ne sont pas prêts à remplir une fonction tellement importante.
Notre oncle, fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout.
Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m.
Y'a quelque chose qui cloche là-dedans.
J'y retourne immédiatement.
Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça.
À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe.
Y'a quelque chose qui cloche là-dedans.
J'y retourne immédiatement.
Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il est reçu et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant soyez sages. Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille.
Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu en mon âme et conscience qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France.
On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant lui fit immédiatement élever un monument.
Un monument, j'ai vraiment une sale gueule sans ce monument. Marqué, vaut mieux avoir une sale gueule que pas gueule du tout.
Voilà, c'était Les Charlots pour la Java des bombes atomiques. C'était une version un peu ancienne. Donc on va poursuivre la retransmission du débat avec Jacques Testard. Et on va terminer avec les lanceurs d'alerte. Donc après nous avoir parlé des conférences de citoyens, qu'est-ce que c'est que des lanceurs d'alerte ?
Un autre mot quand même, toujours pour défendre la démocratie dans la technoscience, les lanceurs d'alerte, vous n'avez jamais entendu parler de ces bêtes-là. Les lanceurs d'alerte. C'est des gens qui, par leur position, ça peut être des chercheurs, ça peut être des ouvriers, ça peut être, j'ai rencontré des bouchers, des gens comme ça, qui se mettent en situation de lanceurs d'alerte. C'est-à-dire, c'est toujours par rapport à une technologie, hein. C'est-à-dire que leur position privilégiée, soit dans l'appareil de recherche, soit dans l'appareil de production, leur permet, mieux que n'importe qui, de voir qu'il y a un problème quelque part. Et de le faire savoir. Donc, ils lancent une alerte. Qu'est-ce qui leur arrive à ces gens-là ? On a fait, à l'association Sciences Citoyennes, à laquelle j'appartiens, on a fait un truc, une réunion des lanceurs d'alerte connue, il y a un an à peu près. Et bien tous ces gens-là, ils ont eu des problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont devenus très vite, bien sûr, les brebis galeuses dans le système où ils étaient. Leurs collègues et leurs supérieurs se sont opposés à eux. Ils sont donc devenus obsédés. Et ils sont devenus un peu parano, forcément. On a cultivé tout ça chez eux. Et ils sont devenus des exclus. Des exclus du monde. Alors, j'ai rencontré là-dedans, je vous ai dit, ouvriers bouchers, vétérinaires, chercheurs, toutes sortes de gens qui se sont mis dans cette situation d'exclusion. Or, ces gens-là ont un rôle extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir d'authentiques foldingues qui disent « Oh, mais ce truc-là, c'est une folie, c'est vachement dangereux. » À ce moment-là, on peut nommer expert et contre-expert, parce que l'expertise toute seule, à mon avis, c'est dangereux, pour voir de quoi il retourne, pour vérifier. Mais jamais laisser le truc à l'abandon, jamais laisser quelqu'un s'en aller alors qu'il a été utile à la communauté humaine, en lançant une alerte. Donc je crois que cette histoire de lanceur d'alerte, ça doit rentrer dans la loi, c'est-à-dire une protection, un statut protecteur. Un lanceur d'alerte doit être protégé par la loi, par le fait qu'il a lancé l'alerte. Après, on pourra le classer dans la catégorie des fous ou dans la catégorie des héros, mais on doit le protéger, avant tout. Donc c'est quelque chose d'assez important. La contre-expertise, j'y reviens, elle doit être multidisciplinaire. Les associations ont un rôle très important à jouer, qu'ils ne jouent pas, ou très peu, dans la contre-expertise. Je dis très peu parce que vous avez par exemple la CRIRAD, qui quand même nous avait avertis du nuage de Tchernobyl. Tout le monde s'était moqué, mais ils continuent de travailler. Ils ont des labos scientifiques avec des gens que même le CEA est obligé de reconnaître compétents. C'est le pire ennemi du CEA, la CRIRAD, hein, l'association donc, pour l'étude des radiations. Mais c'est des gens qui vont détecter la radioactivité autour des centrales, qui font du boulot scientifique, et de façon militante, bien sûr. Ces gens-là ont un rôle, toute expertise sur le nucléaire doit être faite aussi par une contre-expertise des gens de la CRIRAD et d'autres associations du même genre. Et il y a la même chose pour les OGM aujourd'hui. Il y a la CRIGEN, qui est une association avec des scientifiques aussi, qui essaye d'apporter un autre regard sur la technoscience. Donc ça, c'est très important. Pas d'expertise sans contre-expertise et sans implication des représentants de la population sous forme d'associations qui sont déjà préparées. Donc l'important, je l'avais dit au début, j'y reviens, c'est pas il ne faut pas considérer les chercheurs comme des ennemis. C'est pas du tout, c'est pas mon but, hein, c'est pas de dire c'est des salauds. Mais il faut arriver à les impliquer dans la réflexion, et pour certains c'est facile, pour la plupart c'est difficile, sur leur place dans le processus de recherche. Une vraie réflexion. Et moi je l'ai vécu, l'association Sciences Citoyennes par exemple, a été confrontée au mouvement des chercheurs. Bon, on a signé l'appel des chercheurs parce que c'est scandaleux de voir le niveau actuel de la recherche publique en France. Cette paupérisation, c'est dramatique. Donc j'ai signé, et mes copains de Sciences Citoyennes ont signé. Mais en même temps, on a écrit un texte d'une soixantaine de pages que vous pouvez trouver sur le site internet de sciencescitoyennes.org, qui est un truc critique, et qui est comment mettre introduire de la démocratie dans le système de recherche. Et en disant à nos collègues chercheurs, et on leur a dit qu'ils n'étaient pas contents, c'est finalement, vous avez tout intérêt à ce qu'il y ait plus de jeunes chercheurs, parce que ça vous fait plus de publications. Vous jouez vous-même votre propre rôle, mais vous ne tenez pas compte de l'avis de la société. Et c'est bien évident, pour eux, la société, les gens sont gentils mais pas compétents, et qu'il faut faire confiance aux chercheurs. Donc comment impliquer la société dans la recherche? Au moment des assises citoyennes de la recherche européenne, au Forum social européen à Paris et à Londres, il y a eu des interventions dans ce sens-là. Donc c'est une idée qui commence à germer avec différentes procédures. Il y a le système des ARUC. Alors ça ne vous dit rien, c'est Association Recherche Université Citoyen. C'est un machin canadien. Les Canadiens font ça, il y a un gros budget, et les labos de recherche travaillent en communauté avec des associations, avec des représentants de la population, avec des syndicats, pour justement décider des projets de recherche et pour les gérer en recherchant ce que les gens souhaiteraient qu'on trouve finalement. Parce que c'est bien ça la recherche. Le but, ce serait de trouver ce qui convient aux gens. Donc ça existe. Un autre système, ça existait en France mais ça a disparu, mais ça vient d'être créé récemment à l'école normale à côté, à Cachan, les boutiques de sciences. Les boutiques de sciences, c'est un appareil qui permet, grâce au savoir de scientifiques qui sont en même temps des militants, qui sont des gens très près de la société civile, d'utiliser les moyens des laboratoires publics pour faire des expertises qui ne sont pas faites par l'industrie ou par le système public, pour répondre à une question. Par exemple, est-ce que ce truc est toxique? Est-ce qu'on trouve tel produit dans ça? Ils peuvent le faire. Et ça, c'est un truc drôlement intéressant aussi. C'est donc une contre-expertise. il y a les possibilités d'appui à ce qu'on appelle le tiers secteur, c'est-à-dire tout ce mouvement associatif militant autour de la technoscience qui peut être appuyé, c'est-à-dire il peut y avoir des contrats, des militants associatifs pour aller travailler dans les labos publics avec un contrat, ils pourraient avoir des bourses pour faire des recherches qui ne sont pas prévues par le système parce qu'elles ne sont pas rentables, mais qui sont des recherches d'intérêt public. Alors qu'on a lancé ça au mouvement des chercheurs, ils ont accepté cette idée. Hein. Ils ne l'ont pas mis en vedette, mais ils ont accepté l'idée. Ça ne les gênait pas trop. Mais en revanche, c'est sûr que l'industrie ne va pas financer ces bourses-là, par exemple. Il y a tout le système de culture scientifique qui est actuellement un scandale, aussi bien ce qui passe à la télé, même sur Arte, que ce qu'on voit à la Villette, c'est-à-dire le spectacle de la science, la merveille, le miracle. Alors les machines avec des boutons, la fumée qui sort des bouteilles d'azote, tous les trucs, quoi, tous les gadgets... où les gens comprennent rien, mais oh, c'est bien, les savants travaillent, ça progresse. C'est pas ça, la culture scientifique. La culture scientifique, c'est d'impliquer les gens. Il faut qu'ils aillent dans les labos, qu'ils posent des questions, qu'ils proposent de travailler dans le labo, qu'ils regardent, qu'ils critiquent, qu'ils aient le droit de s'exprimer, et pas seulement de boire la bonne parole des savants. Donc, voilà encore, c'est-à-dire un modèle de citoyenneté active dans la culture, plutôt qu'un modèle diffusionniste, comme on a actuellement. On diffuse la bonne parole de la science. Et puis, surtout, les procédures d'élaboration démocratique dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, il y a un truc dans l'expertise qui a été proposé par un nommé Philippe Roqueplot, qui a beaucoup travaillé sur la science d'une façon un peu critique et qui a proposé des choses intéressantes, de faire jouer à des experts le rôle de contre-experts, comme des avocats, par exemple, peuvent être l'avocat de Klaus Barbie, enfin des monstres. Mais on trouve un avocat, et c'est normal, il faut trouver un avocat qui fasse ce boulot. Eh bien, un expert scientifique, avec tout son savoir, on lui dirait, aujourd'hui, tu ne vas pas jouer à nous vendre la science, tu vas jouer au contre-expert, on va te payer pour ça, et tu vas mettre tout ton savoir au service de la contre-expertise. C'est une idée qui n'est pas bête. Ça permettrait aussi de libérer, finalement, des chercheurs du carcan où ils doivent démontrer quelque chose, parce que là, ils seraient engagés par l'État pour juger de la chose et non plus pour la vendre. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Tout à l'heure, je disais qu'il y a eu ce papier de la Fondation Sciences Citoyennes qui fait 60 pages sur la démocratisation des choix de recherche. Il y a eu aussi le manifeste des scientifiques pour une recherche au service du public qui a été pondu à partir de scientifiques qui se sont opposés aux OGM dans le sud de la France, des gens de l'INRA. C'est à partir de là, il y a eu des signataires d'appel, et puis ça s'est généralisé. Et il y a donc un manifeste des scientifiques pour une recherche au service du public. Vous voyez, il y a des choses qui bougent dans le milieu de la recherche, mais il faut stimuler. Et pour finir, je dirais que les dangers, les dérives et les dangers de la technoscience que j'ai évoqués pourraient avoir des effets positifs. Ces effets positifs, c'est d'inventer des formes inédites de démocratie. Tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est des formes de démocratie qu'on applique, qu'on commence à appliquer dans certains pays à la technoscience, mais qu'on peut aussi bien appliquer à la vie politique, à la vie quotidienne, à la vie publique. Conférence de citoyens, c'est bon pour tout le monde. Qui est expert et contre-expert, c'est bon pour tout le monde. Les lanceurs d'alerte, ça peut être aussi à la sécurité sociale ou ailleurs. Donc, tous ces systèmes-là qui sont élaborés dans le champ de la technoscience pourraient être utilisés dans la vie publique. Et ce serait une retombée positive, finalement, de la technoscience, avec les craintes qu'elle fait naître, que de lui permettre d'améliorer la démocratie au niveau général.
Voilà, donc c'était Jacques Testard qui parlait à l'Espace Marx au mois d'avril pour une conférence qui s'intitulait « Technosciences et démocratie ». Alors il faut savoir que Jacques Testard est président ou vice-président, je ne sais plus, de la Fondation Sciences Citoyennes. Vous pouvez retrouver tout un tas d'informations sur la recherche, où va la recherche en France, comment sauver son vol la recherche, et tout ça sur le site de la Fondation Sciences Citoyennes. Donc c'est http /sciences-citoyennes.org et vous trouverez plein d'infos. En ce moment, donc je l'ai déjà dit depuis le début, c'est le festival, c'est la fête de la science et la Fondation Sciences Citoyennes se mobilise aussi pendant cette semaine pour faire un contre-festival qui s'appelle Des fêtes de la science. Des fêtes quoi. Et donc le festival s'appelle Les Sciences en Bobine. Ça a lieu jusqu'à dimanche au cinéma La Clé. Donc hier, mardi, faute ce soir, mais bref, il y avait un débat sur la téléphonie mobile. Si vous courez vite, ce soir, donc mercredi, à 21h45, il y a un débat sur les nanotechnologies. Fred, tout à l'heure, m'a demandé ce que c'était que les nanotechnologies. Je l'ai grillé, ça se fait pas. Bah, si vous voulez plus d'infos, faut aller à 21h45 à La Clé. Donc voilà, nanotechnologies entre mythe et réalité. Samedi, vous retrouverez des films donc sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire, un film du réseau Sortir du nucléaire. Je vous encourage à le voir, il est excellent. Vraiment, on apprend plein de choses sur le nucléaire et on apprend que c'est pas plein de choses. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi y aller. Suivi d'un débat donc à 21h le samedi 15 octobre à la clé. Au-delà du débat public sur les déchets, la France sans nucléaire, un monde possible. Et dimanche, vous pourrez suivre un débat sur la recherche et le féminisme avec Delphine Gardet. Et donc, vous pourrez voir aussi des films avant ça à partir de 19h. Rio, Nomentaidos, Planeta Famea. C'est un film qui a été filmé à Rio en juin 92 au moment du sommet de la Terre. Et juste après, à 8h moins le quart, vous pourrez retrouver les Water Mamas. Ces deux films sur des actions de lutte de femmes pour l'accès et la gestion de l'eau. Et à 20h30, donc le débat Science des citoyennes. Voilà, tout ça, ça a lieu à la clé jusqu'à dimanche. Et plus d'informations toujours sur le site de la Fondation Science Citoyenne, sciencescitoyennes.org.